Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons d'Ismaël Urbain, cet humaniste, interprète, qui s'est essayé au journalisme aussi, un homme du 19e siècle, et il n'y a pas mieux que Roland Lafitte pour le présenter. Roland Lafitte, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci de venir nous parler d'Ismaël Urbain. Vous êtes essayiste et vous êtes surtout secrétaire général de la Société des études saint-simoniennes. Et si vous êtes là, c'est parce que Ismaël Urbain est aussi imprégné de saint-simonisme, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à nos auditeurs, la doctrine saint-simonienne?
Ouh là là, c'est un vaste programme.
Bon, certes, alors, mais dans ses traits généraux.
D'abord, je voudrais dire que ce livre, Ismaël Urbain, c'est l'Orient d'Ismaël Urbain, dont on s'est concentré sur une question du saint-simonisme d'Égypte en Algérie, donc, qui a été écrit avec Naïma Lefkir Lafitte, mon épouse, naturellement, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui est présente.
Vous l'avez écrit à quatre mains.
Voilà, ça a été écrit à quatre mains. Alors, qu'est-ce que c'est le Saint-Simonien? Alors, l'Orient, justement, parce que les Saint-Simoniens ont eu, je pense qu'on doit leur rendre cet hommage aujourd'hui. Dans une époque, on parlait beaucoup d'Orient. Mais à l'époque, l'Orient, c'était le pittoresque. Et puis, tout en méprisant l'expression religieuse de l'Orient, c'est-à-dire l'islam. C'est pas la peine d'aller rappeler Chateaubriand, etc. Lamartine a été un peu plus délicat. Oui. Les Saint-Simoniens, du moins le courant enfantinien, disons.
Délicat dans le sens où il était plutôt admiratif.
Il a fait un mot sur un livre sur Mahomet. Hein, d'accord. Oui, il a valorisé l'islam.
La grandeur du dessin, l'immensité du résultat et la petitesse des moyens sans la marque du génie qui peut oser comparer un être humain, un homme à Mahomet. Oui. Il n'était pas Dieu, il n'était plus qu'un homme, il était prophète. Voilà, je cite de mémoire disait...
Ça me dispense d'avoir quelque chose à dire. Mais il y a un côté valorisant dans la tradition philosophique du 18e, finalement, avec Bell. C'est Bell, lui, qui crée la césure, Pierre Bell, qui navigue entre le catholicisme, la réforme, la libre pensée, et qui dit comment peut-on dire que la moitié de l'humanité, pour lui à l'époque, soit des imbéciles? Ça peut pas être une religion d'imbéciles puisque elle est suivie par la moitié de l'humanité. Donc il y a quelque chose à regarder, il faut regarder. Et ils en ont tiré, Voltaire à sa suite, un islam philosophique, en gros. Voilà. Et dans cette tradition, les Saint-Simoniens ont participé à cette curiosité pour l'Orient, avec cette spécificité par rapport aux personnes dont nous avons parlé, qui avaient quelque chose à apprendre de l'Orient. Chose qui n'est pas toujours vraie aujourd'hui chez beaucoup de gens. Donc l'Europe a quelque chose à apporter au monde parce qu'elle est à la tête des sciences, etc. Mais on n'oublie pas que les Arabes nous ont aidés, nous ont, fait gravir les premières marches, et nous devons le lui rendre aujourd'hui. Et en même temps, nous avons quelque chose à apprendre de ces hommes, de sa pensée, de sa morale, etc., et de sa religion. Donc il n'y avait aucune de ce point de vue. Alors bien sûr avec beaucoup de limitations, naturellement. Enfin c'est quand même pas mal.
Dans mon esprit, en vous posant la question sur la vision saint-simonienne, la doctrine saint-simonienne, c'est cette foi dans le progrès et notamment dans l'industrie.
Oui, alors...
Dans le machinisme, en quelque sorte, alors, matiné de morale.
Oui, alors, il y a évidemment... On retient aujourd'hui, quand on parle du saint-simonisme, des saint-simoniens, on pense à Michel Chevalier, on pense au grand banquier, au frère Pereire, etc. Mais c'était pas la seule voie. Il y avait une voie ouvrière aussi, Parce que dans la lignée des Saint-Simoniens, il y a eu les premières coopératives. Bon, mais je passe là-dessus. La question de l'Orient, pour se centrer là-dessus, c'est ce qui a entraîné, Urbain, qui était jeune à l'époque, 22 ans, en Égypte, avec Enfantin et une trentaine de gens qui étaient allés là-bas pour faire de la coopération, on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils refusaient la conquête et la colonisation. On reproche à Lamartine de vouloir conquérir les pays. On reproche de vouloir coloniser. On dit aujourd'hui c'est dépassé, c'est une époque dépassée ça. Aujourd'hui il y a la place pour, le mot n'existe pas, pour l'association à l'époque. Aujourd'hui on dirait la coopération. Et c'est l'expérience égyptienne, qui est une expérience marquante pour Urbain, qui va ensuite aller en Algérie, parce que ça va être tout à fait différent.
Alors, on va faire connaissance avec Ismaïl. Il s'appelle pas Ismaïl. Il est né, quoi, un 31 décembre 1813
Oui, 12. Oui, enfin, dans la nuit de la Saint-Sylvestre, il naît en Guyane.
Oui, d'une fille de mulâtresse.
D'une mère née esclave.
La mère elle-même est née esclave,
franchie. Elle a été émancipée après la naissance. Métisse, mulâtresse, née esclave.
Et le papa
Un
urbain bru.
C'était un urbain bru de la Ciotat, un armateur qui a dû aussi traficoter dans l'esclavage. Il s'est installé à la Guyane. Et donc on vit dans toutes les péripéties de changements, d'époque, d'abolition de l'esclavage, de rétablissement de l'esclavage, de statut des hommes de couleur. Urbain donc ne peut pas être reconnu par son père, parce que la loi l'interdit. Donc il porte le nom de sa mère, qui n'a rien à voir avec celui qu'on lui connaît, parce que bon, c'est toute une histoire.
Il s'appelait quoi?
Il s'appelait Thomas Urbain Apolline. Voilà. Bon, voilà. Et donc il garde une tache originaire, qui est double. Le fait qu'il soit métis, carteron, associé à son statut d'homme de couleur qui l'empêche d'être reconnu par son père. C'est une double tâche. Non pas qu'il refuse d'être homme de couleur, parce qu'il sera fier, de sa négritude, on dirait, avant la lettre. Il a écrit des poèmes magnifiques.
Ou une part de négritude.
Il s'affirme noir. Enfin bon, il y a un jeu de rôle quand il rentre chez les Saint-Simoniens, parce que il n'a pas de famille finalement. Son père ne le reconnaît pas, il est extrêmement frustré naturellement. Et en 31, fin 31, il prend contact avec les Saint-Simoniens et c'est sa famille. Et il entre dans une famille où il est reconnu comme homme tout simplement, on ne lui demande pas. Mais il est représentant des Noirs. Et c'est dans un dialogue avec Destal, qui lui, c'est un fils de banquier juif bavarois venu en France, la famille s'est convertie au catholicisme pour éviter les tracasseries administratives, et qui crée un jeu de rôle toute la vie entre le juif et le noir, les deux proscrits. Voilà. Chacun a sa souffrance et reconnaît dans l'autre sa propre souffrance.
Oui. Et pourtant, son père lui prodigue une éducation quand ils viennent à Marseille.
Il a une éducation bourgeoise, normale. Il va au lycée, il fait sa rhétorique tranquillement. Il a même des qualités. C'est un jeune homme normal, mais...
Et il lui confie de s'occuper de ses affaires.
En plus, oui.
Mais comme elle périclitait à Cayenne, ça ne l'intéresse plus.
Oui, franchement, c'était pas son truc. Lui, de quoi il rêvait? Il savait pas très bien, mais... avec les Saint-Simoniens, il se découvre un peu prophète quelque part sous l'influence de Destal, qui et puis on cultive chez lui des qualités théâtrales qu'on a remarquées, qualités littéraires, etc. Et finalement, ça va le porter pendant quelques années.
C'est pour ça que Prosper Enfantin lui dit. Tu as bien fait prophète ou quelque chose comme ça.
Oui,
après sa circoncision, oui, on y reviendra.
Oui, c'est intéressant de voir quand il se convertit à l'islam. Peut-être j'en parle tout de suite ou plus tard.
Allez, suivons un peu sa trajectoire de vie.
Alors, donc, il se convertit à l'islam en Égypte. Et c'est très intéressant parce qu'on a beaucoup glosé là-dessus, ces politiques, pour avoir l'écoute des Égyptiens. Pour lui, la religion musulmane, évidemment, il y a un aspect social. Il aime la société égyptienne. Bon, même s'il est un peu extérieur, quand même, n'abusons pas. Il rentre dans une famille du docteur Dussap, qui était venu avec l'expédition de Bonaparte, qui est resté là à soigner les Égyptiens, et qui a fait famille avec une femme esclave de Abyssinie émancipée, donc qui vient d'un milieu musulman. Et donc il vit dans cette famille où on n'oppose pas l'islam et le christianisme, on l'oppose pas, on vit en symbiose, et il découvre chez les musulmans des qualités qu'il n'a pas chez les chrétiens, et notamment les chrétiens qui sont en Égypte, même ceux qui sont convertis à l'islam.
Oui, on est quoi, en 1835 là, à peu près.
Là, il arrive en 33, et il va repartir au début 36, donc c'est très court, hein. Alors, il y a des péripéties. Il découvre dans la famille Dussap la fille Hanem, qui a un nom turc, il en tombe amoureux. C'est un amour contrarié parce qu'elle meurt de la peste, enfin, tout un tas de choses. Mais avec elle, il revit ce qu'il a perdu en France, c'est-à-dire cette ambiance métisse. Elle est métisse, effectivement. Cette ambiance métisse, pas simplement du point de vue, on pourrait dire, sensuel, mais aussi du point de vue social, etc. De sensualité dans tous les sens, pas simplement ethnique, mais aussi dans le rapport. Imprégné d'islam, quand même, de culture. Et là, il découvre quelque chose. Il le fait sien, ce milieu. Et sa conversion se fait au moment d'une crise mystique, on pourrait dire, qui est due à la peste, à des conditions abominables, où la moitié de la colonie saint-simonienne disparaît à travers la peste ou les maladies. Pas la moitié, mais au moins le tiers.
Et c'est là où il est professeur français à Damiette.
À ce moment-là, il est professeur de français à l'école d'infanterie de Damiette. Et il a une expérience pédagogique très intéressante. Bon, enfin. Et donc, il se convertit à l'islam. Pour lui, il y a plusieurs qualités sociales à l'islam. D'abord, une convivialité qu'il ne connaît pas en France, où il retrouve sa Guyane, ses sensations de la Guyane. C'est très curieux. Pour un Français, c'est curieux. Pour lui, pas du tout, au contraire. Et puis, sur la question de l'esclavage. Parce qu'il s'aperçoit que l'esclavage, ce qu'on appelle l'esclavage chez les Arabes et les musulmans, n'a rien à voir, qui est un esclavage domestique, n'a rien à voir avec l'esclavage industriel qu'ont pratiqué les Anglais, les Français, les Espagnols, etc. Ça n'a rien à voir.
Dans le commerce triangulaire.
Voilà. Et donc, pour lui, c'est pas qu'il critique pas l'esclavage. On verra. Notamment, on trouvera une description du marché aux esclaves de Tunis en 37, où ils souffrent, ils montrent une souffrance épouvantable. Mais il y a quelque chose de différent, de plus humain quelque part. Et tout ça, ça favorise sa conversion à l'islam, où on dirait comme Meyerowitz, il s'est pas converti, il a embrassé l'islam. Donc sans renier les qualités et la foi du christianisme, la foi abrahamique, on dirait, en quelque sorte. Mais il a vraiment la foi. Oui. Et il est sérieux.
Et sa maîtrise de la langue arabe l'a aidé aussi parce qu'elle a pénétré le texte ou
alors,
pas.
Alors, ça c'est il faut faire le cheminement. Et il rentre à Paris en 36. Là, il a quelques bribes d'arabe, c'est un peu bon. Et il suit les cours de Cosin de Perceval d'arabe vulgaire, comme on dit à l'époque. Mais quand il arrive en Algérie, il s'aperçoit que son arabe, c'est bon, et il s'y met. Il se met à l'arabe, pas simplement à l'arabe algérien, disons dialectal, comme on dit,
dans lequel vernaculaire.
Vernaculaire qu'il va maîtriser, évidemment, mais aussi dans l'arabe, il lit beaucoup et il se met même à essayer de traduire le Coran. Et il commence. Et c'est bon, il n'a pas beaucoup de temps, mais quand il sort le Coran de Kazimierski, bon, il abandonne, je crois, parce que. Mais il garde une idée qui ne sera réalisée que quelques décennies plus tard par la Baume, c'est de faire une publication thématique du Coran. Oui. Ça, c'est très intéressant.
La traduction de Kazimierski étant de 1840.
Voilà.
Lui, à ce moment-là, est en Algérie.
Il est en Algérie en ce moment, il est à Constantine. Oui.
Et quand est-ce qu'il se lie d'amitié avec l'émir Abdelkader?
Oh, plus tard.
C'est vers 45 d'abord ou plus tard?
Quand Abdelkader est en bois, c'est lui qui est responsable. C'est lui qui nomme le capitaine Boissonnet, donc qui rend les comptes et qui est le contact avec Abdelkader. Et il le rencontre là et il s'aperçoit qu'il a dit beaucoup de bêtises sur Abdelkader. Bon. Et il admire. Il admire et il a avec lui des discussions religieuses et civilisationnelles. C'est pas un simple contact qu'aurait fait un colonial, je veux dire, ou un chrétien. Non, il a des discussions sur la religion.
Alors comment Ismaïl Urbain s'est-il accommodé de ce qu'on appelle maintenant les exactions du général Bugeaud?
C'est très bon.
Parce qu'il l'était aussi avec lui. Il était même son interprète.
Oui, non, il très peu. Il arrive évidemment, il est interprète. Donc, il est nommé, quand il arrive en Algérie, il est nommé à Oran au moment du traité de la Tafna. Et Bugeaud le traite de tête à illusion. Il voit un jeune homme qui arrive, qui veut réconcilier tout le monde, alors que Bugeaud, il n'a absolument rien à faire. C'est pas son problème, Bugeaud. Et donc, il le traite de tête à illusion. Il reste jusqu'en décembre 37. Ensuite, il passe quelques mois à Alger, avant d'être nommé à Constantine. À Constantine, avec Galbois, avec le général Galbois. C'est-à-dire dans une ambiance intéressante où, à Constantine est interdit aux colons. Donc, il y a l'armée. Mais il n'y a pas ni de commerçants, ni rien du tout. Donc il peut rentrer dans la société,
constantinoise, oui,
et il se marie, il prend femme à ce moment-là, devant le cadi.
Oui, c'est une certaine Jaymouna.
Jaymouna, oui.
Fille de Messaoud.
Zbiri. Bon. Et là, il rentre dans la société, ce qui est possible. De rentrer dans la société constantinoise, au moins des notables, et il y rentre par son travail à la division, où il s'occupe des affaires indigènes, comme on dit à l'époque, mais il rentre aussi par la mosquée, par les fréquentations de son épouse. Donc il rentre vraiment dans la société. Et évidemment, l'arabe, là, la langue de la région, il la pratique évidemment à fond. Quoi.
Alors pour revenir sur cet aspect familial, plus tard quand il reviendra en métropole,
oui.
En tout cas, on lui dira qu'il faut qu'il se marie devant l'état civil et qu'il faut qu'il baptise sa fille.
Oui, alors ça a été des bêtises qu'il a faites dans sa vie d'ailleurs. Et sa fille lui en a voulu parce que sa fille étant persécutée...
Une école catholique.
Dans une école de bonnes sœurs à Constantine, comme la fille du renégat, la fille de l'arabophile, enfin toutes les tares qui pouvaient être mises sur son dos. Finalement, il a cru pouvoir sortir de cette souffrance en faisant baptiser sa fille et en épousant devant l'état civil. Alors qu'il était marié que devant le cadi, donc sa fille n'était pas reconnue, elle était dans la même situation qu'elle était devant la même situation que lui, devant son père. Il ne pouvait pas être reconnu devant l'état civil français. Donc, il fait ces choses-là, et sa fille, ça n'est pas sorti. Elle a toujours reproché pratiquement de l'avoir mis dans cette situation. Yeah. Elle se sentait arabe, si on veut.
Thank you. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'essayiste Roland Lafitte, qui est aussi secrétaire général de la Société des études saint-simoniennes, et nous parlons d'Ismaël Urbain, qui lui-même est aussi saint-simonien et un homme de l'humanisme du 19e siècle, on pourrait dire. Nous continuons à faire connaissance avec Ismaël Urbain. On est entre l'Algérie et la France, la métropole, puisque l'Algérie, après la conquête n'est pas encore achevée à ce moment-là, Roland Lafitte.
La conquête de l'Algérie, je sais pas, c'est un mot sur lequel on a tellement de choses. Quand on sait qu'il a fallu attendre 1961 pour qu'à Tamanrasset, il y a un bureau d'état civil.
Oui.
Voilà. Bon, il y avait des départs. Alors, la conquête du Nord, c'est évidemment avec Abdelkader qui se rend en décembre 47 et Ahmed Bey quelques mois plus tard, en 48. Mais il reste la Kabylie, 57.
Ismaël Urbain récuse l'appellation Kabylie.
Alors non, il récuse pas la Kabylie. Il est dans l'esprit de l'époque. Oui. Il accepte. Une fois qu'il a accepté, bon, il faudrait revenir là-dessus. Il accepte le cadre de la conquête. Bon, une fois qu'il l'accepte, il est pour que cette conquête soit le mieux possible. Mais évidemment, c'est problématique parce que je reviendrai à la Kabylie après. Parce que les Saint-Simoniens, donc en 37 encore Prosper Enfantin, et fait une lettre au roi, revendique l'association à l'échelle humaine avec l'Orient et l'Occident, sans conquête ni colonisation, sans conquête ni colonie. Mais ils acceptent le cadre de la conquête. Bon, c'est un peu le but de notre bouquin. De montrer pourquoi on est passé si vite du refus de la conquête et de la colonisation à l'acceptation de la conquête. Et Urbain, la colonisation, Urbain, il est contre la colonisation européenne, fondamentalement.
Parce qu'il a vu le comportement aussi des colons qui expropriaient en quelque sorte les paysans de leur terre.
Oui, bien sûr, il a vu tout ça, bien sûr. Alors, donc on passe, on dénonce les exactions, mais on espère qu'on va arriver le plus tôt à une paix où on va pouvoir gérer, etc. Et là, il monte des théories assez baroques on pourrait résumer en disant l'association dans la conquête. Bon, c'est-à-dire un gouvernement des Arabes par les Français, par les militaires français, mais avec les lois arabes. Enfin bon,
on reviendra peut-être à
ça.
Tout
c'est
ça.
Bon.
Roland Lafitte, j'aurais une question autre. On a parlé un peu de sa présence à côté de Bugeaud, et lui aussi était admiratif de l'œuvre de Tocqueville. Or, le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie. Et comment...
Vous parlez de Bugeaud ou d'Ismaël Urbain?
Non, je parle d'Ismaël Urbain.
Je ne sais pas s'il était admiratif. Non, je ne crois pas. Non, je
avec
crois pas.
Avec l'idée qu'on n'est plus à une époque de monarchie universelle.
Non, je ne vois pas. Son rapport avec Tocqueville, on a pu supputer qu'ils se sont vus en 47, etc. Je ne pense pas. C'est pas... Urbain, la question du régime politique lui importe peu, il faut dire. Alors, il a eu des velléités en 31, quand il a fini sa rhétorique. Il s'enflamme pour la République, mais très tôt, en tombant dans le bain saint-simonien, c'est pas les idées républicaines qui priment, c'est l'idée de, peu importe le régime politique chez Enfantin et ses copains, pourvu que ça soit pacifiste et gradualiste. Donc ils sont contre la violence révolutionnaire, contre... Mais Urbain, il garde une petite triple républicaine, Si bien qu'en 48, par exemple, sur les barricades, il voit Destal aller dans la garde nationale et il lui reproche « Mais vous êtes avec les riches !» Bon, et puis
il se... Bah, il est fils de banquier.
Et puis il se tait tout de suite. Parce que... Bon, c'est-à-dire, c'est l'idée... Et on lui reprochera ensuite d'avoir été bonapartiste. Il n'a jamais été ni monarchiste, ni bonapartiste, ni républicain. Je dirais même que pour donner la complexité du personnage, en 1869, il y a un jeune qui fait un livre qui dénonce la colonisation, la conquête et la colonisation comme des crimes, qui lui dédie son livre. Et qui fait son, qui va faire son
sa préface.
Non, quand il meurt, il va faire une note biographique dans le journal de Clémenceau, La Justice.
Une sorte de nécrologie.
Une nécrologie. Et il publie une lettre d'Urbain qui, en 69, lui dit, vous, laissez les démocrates, la démocratie et le socialisme ont failli en Algérie. Ils ne sont pas à la hauteur de leurs promesses. Ils font exactement la politique contraire de celle qu'ils prônent. Mais vous, et il l'invite, lui comme républicain et socialiste, à faire son travail. Et ce jeune, il a été dans la Commune de Paris. Oui. Donc, c'est pas l'homme d'un parti, c'est pas l'homme
d'une faction
ou d'un régime, c'est l'homme d'une idée.
Oui.
C'est ça.
C'est ce qui l'avait poussé peut-être. Là, c'est aussi une question. Pourquoi n'a-t-il pas assumé son ouvrage « L'Algérie aux Algériens » Il ne l'a pas signé de son nom, il a signé Georges Voisin.
Oui, mais parce qu'à l'époque, c'était une petite brochure. Ben, parce que à l'époque, il devait se sentir complètement seul. Mais il y avait tout un tas de généraux qui l'ont, à ce moment-là, on pourrait dire, poussé à faire des choses plus ouvertement. Dans la mesure où ça correspondait aux paroles lancées par Napoléon. Aux paroles,
oui.
Du moins.
Alors, il revient à Paris, et comment a-t-il été propulsé, si j'ose dire, comme le conseiller spécial pour les questions d'Orient, et même pour l'Algérie, auprès du prince président?
C'est-à-dire, c'est ça, c'est là la question. Michel Levallois a écrit un premier livre, Une autre conquête de l'Algérie. Donc effectivement, il avait une autre vision dans le cadre de la conquête du développement d'Algérie. Et aux affaires, au ministère de la guerre, aux affaires indigènes, notamment en 49, il fait un projet, c'est lui qui fait le projet de loi sur l'enseignement. Et c'est très intéressant. Il dit qu'il faut restituer les biens à bout. Bon, c'est pas rien quand même.
Alors nous expliquons aux auditeurs que les biens Habous sont des biens de main morte.
C'est des biens de main morte qui permettaient de financer l'enseignement, parce qu'il y avait une école à peu près Msid ou ça dépend, ça changeait.
Madrasa
pour l'enseignement secondaire et supérieur, à côté de chaque mosquée. Bon. Et donc il dit c'est une catastrophe d'avoir détruit ça et il faut réintroduire l'enseignement traditionnel. En y ajoutant un peu de graines modernes, scientifiques, soit en formant les professeurs, les instituteurs, soit en les formant, soit en leur adjoignant un autre. C'était ça sa vision. On a commencé dans ce sens, sous la Deuxième République et l'Empire, et la Troisième République a supprimé tout ça en disant, bon, ça, non. Si les Algériens veulent, ils viennent à l'école française. Mais à l'école française, dès qu'il y avait un Algérien qui était là, il y avait une campagne de presse pour dire qu'est-ce qu'ils font là. Bon, c'était le double langage de l'assimilationnisme.
Oui, on est dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ce qui disent aussi que le Jules Ferry de la métropole n'était pas le Jules Ferry des colonies, puisque l'école n'était ni laïque, ni gratuite, ni obligatoire. Donc, alors, comment se fait-il que Ismaël Urbain, avec son Senatus Consulte de 1864, le 14 juillet,
d'accord,
que ça n'avait pas abouti? Il y avait cinq lois essentielles dans le Senatus Consulte.
Il faut revenir un peu en arrière pour répondre à la question que vous
m'avez posée. Je vous en prie, Renaud Lafitte.
Alors, donc, il travaille, lui, pour une vision des rapports avec l'Algérie, et ça se constitue. 48, 49, il fait le bilan de tout ça, et il arrive à cette idée qu'il faut, donner des droits aux Algériens. On va voir en analysant Senatus Consult, donner des droits aux Algériens, les droits que normalement la Révolution française promet à tous les Français. Mais sans vouloir les assimiler, comme on dirait, c'est-à-dire tout en leur permettant de garder leur personnalité culturelle et religieuse.
Oui, et alors voilà. Il le faisait pour les Israélites et les musulmans, comme on
Absolument.
Disait à l'époque.
Alors, il y a pas de. D'ailleurs, on voit très bien comment pour faire un parallèle, son ami d'Echtal, les Juifs de l'époque même, qui se disent assimilés, revendiquent une certaine personnalité juive. Ils n'hésitent pas. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle d'islam, il faut enlever toute personnalité pour être assimilé. Non, il y a eu une incompréhension totale de ce qui s'est passé au XIXe siècle. Urbain, il ne détonne pas complètement là-dedans. Dans l'ambiance qu'il a avec Destal est complètement d'accord avec lui. Bon, ils valorisent l'islam, les gens comme Destal. Il valorise l'islam historiquement pour les progrès qu'il apporte en Afrique noire, etc., etc. Bon, on ne va pas discuter de cette vision, mais c'est ainsi. Il n'y a pas de malveillance du tout, au contraire.
Donc ma question Senatus Consult.
Donc, égalité des droits. Bon. Mais on le fait, mais c'est un gradualiste, la Saint-Simonienne. Donc, il trouve... Dans sa petite brochure, la seconde qu'il fait sur... la première, c'est l'Algérie pour les Algériens. La seconde, c'est l'Algérie française. Immigrants et indigènes et immigrants. Alors, il fait toute une théorie. Il va se servir du code civil. Dans le code civil, il y a la capacité juridique. Elle est duale. Il y a deux capacités. Une capacité de jouissance des droits, sans laquelle on est esclave. Et une capacité d'exercice. Par exemple, l'enfant ne peut pas jouir de ses droits, il les exerce sous tutelle. Et pas simplement l'enfant, mais la femme mariée aussi. On l'oublie. Et les incapables majeurs.
Qui sont sous curatelle.
Qui sont sous curatelle, sous tutelle. Bon. Donc, il prend tout ce dispositif intellectuel pour dire, bon, d'accord, les droits, si vous voulez pas les donner tout de suite, il faut les proclamer et y aller par un certain cheminement, c'est-à-dire que l'exercice, la capacité d'exercer... Alors, il accepte que les indigènes soient sous tutelle, mais en déclarant qu'au bout du chemin, ils doivent être émancipés. C'est ça l'idée, son idée. C'est pas ce qu'on a retenu en général. Justement, parce que je parle du second Senatus Consult tout de suite sur la nationalité. On l'accuse d'avoir voulu créer la notion de sujet et de citoyen et de sujet. Mais c'est pas lui qui crée. D'ailleurs, la question du statut personnel, elle existe depuis que les Français ont colonisé des terres où il y a des musulmans. Et même en 48, ils ont donné la citoyenneté avec le statut personnel, par exemple, à Dakar et dans les colonies indiennes. Donc, c'était pas impossible. Donc, Urbain considère que c'est un progrès d'avoir établi que les Algériens sont français, parce que c'était pas dit alors que normalement, en droit international, ils étaient. Mais, il reproche qu'on ne fait pas tout de suite, qu'on ne proclame pas tout de suite le but, c'est-à-dire l'égalité des droits.
Oui, il le dit même pour les colons qui viennent s'installer, il leur faut une période de 3 ans pour jouir de ce droit d'être sujet à l'époque du Second Empire, et après citoyen.
Oui, c'est-à-dire Senatus Consult admet qu'on peut obtenir la pleine citoyenneté en abandonnant son statut personnel. Alors au début, il est d'accord, mais il est d'accord tout en n'étant pas d'accord, puisque on sait déjà à l'époque qu'on peut être entièrement français en gardant son statut personnel, ce qui existe toujours dans la Constitution de la Ve République, on l'oublie. Parce qu'il y a des gens qui crient au scandale parce que Urbain, à ce moment-là, aurait créé la notion de statut personnel. Il n'a rien inventé, le pauvre, je vous donne ce qu'il dit. Alors, ça, et donc, lui, il est tout de suite pour montrer, par exemple, que dans les élections locales en Algérie, comme en Guyane, comme dans les autres colonies, il faut la participation au vote.
Voilà. Sans les collèges ou avec les collèges?
Sans collège. Il faut qu'il participe au vote. Il paie les impôts, il finance les écoles françaises, et les écoles françaises sont pas, les écoles musulmanes sont pas financées. C'est un gâchis terrible. Et il dénonce le code de l'indigénat. Les lois spéciales contre l'indigénat. Ça, c'est très important. Et il le fait, il parle de statut de loi spéciale répressive sur l'indigénat avant 81, dès les années 70. Et il va mener campagne là-dessus. Ça, c'est la partie belle de son œuvre, finalement.
Il y aurait une partie moins belle?
Ben, l'acceptation du cadre colonial, qui est une catastrophe, puisque si on regarde l'œuvre de sa vie, il accepte le cadre colonial. Il dit, on va voir. On va essayer de faire pour le mieux. Tout ce qu'il a voulu, tout ce qu'il a proposé, a été refusé. Les réformes de l'école, les réformes du droit, la nationalité, la capacité juridique entière, le refus de la colonisation qu'il avait, tout ça n'a pas été possible. Il a fallu l'indépendance en 62 pour que son programme soit réalisé.
Comme il est mort en 1864.
Alors, oui. On peut dire, alors j'ai pas parlé du premier Senatus Consul, mais c'est moins important. Peut-être on y reviendra. Mais sur cette question des droits, ce qui est très important, c'est qu'il faut attendre la fin des années 1910 pour que les nouveaux Algériens, avec Al-Haq, la deuxième revue Al-Haq, revendiquent, à côté des droits, de tous les droits, la reconnaissance de la personnalité culturelle.
Oui.
Et c'est dans les années 20 que ça va prendre.
Al-Haq voulant dire à la fois droit, vrai,
le
vérité.
Le droit et la vérité, oui. Et Dieu.
Le vrai par excellence, qui oui. s'affirme comme oui. vrai lui-même.
Oui.
Roland Lafitte, alors on dit qu'Ismaël Urbain était à l'origine, sinon à accentuer l'arabophilie de Napoléon III. Est-ce vrai? Est-ce non. faux?
C'est-à-dire, le jour où on a découvert... Je parle avec mon épouse, c'est notre avis... personnel, si on veut, d'après ce que nous avons lu, parce que nous n'avons pas simplement publié ce livre, nous sommes en train de mettre au point la correspondance Urbain d'Echtal avec Philippe Régnier et Hervé Lebray sur toute leur vie. Il y a 1100 lettres, donc on est en train de faire un choix, on va essayer de les publier déjà sur notre site de la Société des études nationales, et puis ensuite par écrit. Bon. Donc on a fait un travail. Et nous avons l'idée, dans les sociétés des études nationales, de publier ces articles, enfin un choix d'articles des années 70-80, où il fait le bilan de sa vie, avec une idée minimaliste, en disant, il faudrait qu'en Algérie, la situation des Algériens soit pas plus catastrophique que la situation des chrétiens dans l'Empire ottoman. Déjà, ça serait un progrès. Il faut dire, vous voyez comment il attendait que les choses changent. Il n'attendait pas grand-chose, malheureusement. Donc, il était dans une position de tribun minimaliste, en quelque sorte. On pourrait dire, hein, pour simplifier.
Alors, j'ai parlé d'arabophilie, mais il y aurait une islamophilie, en réalité, qui dépasse le cadre de la souche arabe.
Alors, on était traité d'arabophile, d'islamophile, d'indigénophile. À l'époque, islamophile, c'est venu après, au début des années 1900. D'ailleurs, de façon valorisante de la part d'administrateurs coloniaux, parce qu'ils dénonçaient la politique française en Afrique, qui devait être islamophile et non pas islamophobe. Voilà. Mais à l'époque, il est traité d'indigénophile, d'arabophile, de renégat. Le gouverneur Pélissier le traite de renard à la queue coupée. C'était très élégant. Hein. Bon. Et on a, avec Ageron et puis les gens qui l'ont mis sur la scène, on parle de la politique, le royaume arabe de Napoléon. Alors, c'est-à-dire on confond beaucoup de choses. pas ses auteurs, mais les gens qui ont utilisé ça, qui ont entendu ces mots. Parce que c'est pas un mot d'Urbain, c'est pas du tout. Et puis ça n'a jamais été un projet institutionnel, c'est une formule de propagande, un slogan. C'est-à-dire que la France n'est pas simplement française, elle est arabe, il faudrait dire. Donc elle a une personnalité propre, c'est ça ce qu'on peut. Urbain a cultivé cette idée, ça c'est certain. Mais ça, on doit lui rendre compte de ça.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons d'Ismaël Urbain, ce Saint-Simonien humaniste et homme de conviction.
Et musulman.
Et musulman. C'est vrai qu'il est passé de Thomas à Ismaël, il aurait pu garder Thomas aussi.
Oui,
mais bon.
mais Ismaël parce que c'est le fils d'Agar, esclave.
Peut-être c'est ce choix-là.
C'est ce qu'il explique.
Alors, avec Roland Lafitte, essayiste et secrétaire général de la Société des études saint-simoniennes. Roland Lafitte, bon, nous parlions donc de ce royaume arabe que Ismaël Urbain n'a pas théorisé, mais c'est la compréhension, c'est l'exégèse qu'on fait un peu de son œuvre.
Mais c'est l'accusation qu'ont fait les colons et le gouverneur d'Algérie, en accusant Urbain de vouloir créer un royaume arabe, Napoléon d'abord.
Associé à avec un vice-roi.
Oui, non mais tout ça c'est des fantasmes.
Vassal à Napoléon III, qui serait le suzerain.
Oui, alors, il y a une réalité là-dedans, mais qui ne concerne pas l'Algérie, mais qui concerne le Moyen-Orient, où il y a eu une politique arabe de la France. Déjà avec Mohamed Ali. Et ensuite, on voulait détacher la Syrie de l'Empire ottoman pour en faire un royaume arabe. Et Napoléon III a même demandé à Abdelkader de vouloir prendre, qui a refusé. Alors, la réalité, elle est là, elle n'est pas en Algérie. En Algérie, c'est des départements français.
Oui.
Mais il faut respecter la personnalité culturelle des Algériens, de leur religion et de leur culture. Voilà la profession de foi d'Urbain et son principe.
Oui. Alors Ismaël Urbain a parlé, écrit à propos de la tolérance. Bon, le mot de nos jours est depuis cette fameuse parole, la tolérance, il y a des maisons pour cela.
Oui.
Mais pour lui, à l'époque, c'était cette exigence de respect et de reconnaissance
C'est un mot ambigu.
De ses co-religionnaires, donc.
On est d'accord, c'est un mot ambigu. On sait que ce qui a été, c'est né en français, là, il faut faire l'histoire du mot pour comprendre. Le mot né en français par intolérance. C'est l'intolérance qui est frappée. La tolérance, c'est le contraire, mais n'a pas exactement la même signification. Parce qu'on va pas dire l'intolérance en mécanique. Tandis que c'est un concept mécanique aussi, de mécanique, la tolérance à la chaleur ou bon.
Donc, ou comme en médecine, l'organisme pourrait prendre un médicament pris par inadvertance, donc
voilà.
Le tolérerait.
Donc il y a une ambiguïté du mot, effectivement le mot est dommage, mais indépendamment de cette polémique, quand il parle tolérance dans l'islamisme, il fait un petit livre là-dessus, enfin un article qui a été publié sous forme de brochure, de tirer à part tout de suite,
Et à l'époque, Roland Lafitte, l'islamisme, l'appellation islamisme était comme on parlait oui, du christianisme ou du judaïsme.
Donc voilà. Alors ça, c'est intéressant là, parce qu'il montre, par exemple, c'est là qu'il valorise Abdelkader. Parce qu'il dit, finalement, on accuse Abdelkader, mais son islam, la religion islamique, c'était pas l'intolérance. La religion islamique pour Abdelkader, c'était la manière d'unifier dans l'état où elle était la société algérienne. Donc, il prend l'islam, là, comme valeur politique. Et dans son effet politique. Et il montre que par ailleurs, toutes les manifestations d'Abdelkader, c'est très difficile de montrer que le fanatisme, l'intolérance chez Abdelkader, c'est quand même difficile. Et donc il valorise ce côté humaniste, on pourrait dire, chez Abdelkader.
Et c'est lui qui a intercédé ou incliné Napoléon III pour avoir plus d'égards pour l'émir Abdelkader ?
Non.
Non ?
Non, je pense pas. Il était lui-même, il était coincé dans son rôle de fonctionnaire et Abdelkader était prisonnier. Il était prisonnier. Il n'a jamais, il n'a pas. Je ne vois pas dans sa correspondance qu'il ait mis, peut-être ça existe, mais qu'il ait mis l'idée de le libérer. Non, c'est venu de la part de, comment dire, de la part de Napoléon. Qui a voulu, comment dire, respecter la promesse qui avait été faite par l'armée française. Lui, c'était un militaire.
Qui avait tardé, finalement, à être... En tout cas, respecté ou appliqué.
La Mauricière promet qu'il sera libre, et on le met en prison. Donc, la France officielle n'a pas respecté sa parole.
Roland Lafitte, pour ses derniers moments de l'émission... Ismaël Urbain, comment il a parlé, puisqu'à ce moment-là on parlait ainsi, de race des musulmans, et il voulait unifier la race des musulmans et de celle des chrétiens.
Il y a tout un chapitre de notre livre qui est consacré à cette question. Hein. C'est-à-dire comment la notion évolue entre 1837, où il fait une brochure avec Destal sur... sur les rapports entre les races noires et blanches, et puis la fin de l'époque où on a une théorisation, systématisation raciale avec hiérarchie. Renan est passé par là, on va pas rentrer dans les détails.
Mais ce que je veux dire, c'est que ça pouvait se comprendre quand il s'agissait des races noires et blanches, pour utiliser le vocabulaire de l'époque.
Sinon, ça veut dire peuple.
Mais pourquoi pour les religions?
Parce que le mot était, comment dire, complètement flou. On aurait dit peuple. Comment dire aujourd'hui peuple chrétien ou peuple musulman, peuple de droite ou peuple de gauche, ça va pas plus loin, sauf pour les Noirs. Mais ça se systématise avec Renan et avec d'autres pour arriver dans les années 70-80 à une véritable conception
du 19e siècle.
Oui, de hiérarchie raciale, de hiérarchie avec discrimination, etc. Faut pas s'attacher aux mots, quoi.
Oui. Ou du moins le ramener à son contexte du 19e
postérieur,
siècle.
Postérieur, oui, bien sûr.
Que reste-t-il chez Ismaël Urbain, le musulman qu'il était, des idées saint-simoniennes? Est-ce que le positivisme de Comte comptait pour lui, si je puis dire, ou pas?
Non. Donc, ils sont pas. Ils ont une dent, Destal et lui ont une dent contre Comte. Et pourtant, je dirais, par provocation, qu'Urbain, c'est le plus comtiste des enfantiniens. Justement par...
Relativement à Prosper Enfantin.
À Prosper Enfantin. Justement à cause de son rapport avec l'islam. Mais l'islam d'Urbain, c'est un islam qui a quelque chose de vrai, de charnel. L'islam de Comte, je suis désolé, mais c'est très intellectuel, c'est très cérébral. C'est pas la même chose.
Et... Parce que le positivisme de Comte, qui va aller même jusqu'au scientisme, paraissait, et je le dis avec beaucoup de prudence, n'allant pas de pair avec une certaine vision du monde au XIXe siècle, islamique.
Pour lui, pour Comte, il y a des étapes dans la conscience humaine et dans le besoin qu'a la société d'avoir une religion, c'est-à-dire une conscience de son être. Et il crée une progression des religions. Alors pour lui, la religion la plus proche de la religion universelle, c'est l'islam. Beaucoup plus que le christianisme et dans ses formes, protestantisme, catholicisme.
C'est ce qu'on attribue, à tort ou à raison, je suis pas sûr, cette fois-ci, à Bonaparte d'avoir dit la même chose en ayant lu le Coran dans la traduction de Savary sur le bateau en allant dans son expédition.
Il avait aucune gêne contre l'islam des Ottomans. Il n'avait pas toutes les préventions qu'il y a eu à l'époque. D'ailleurs, à un moment, il a postulé pour être coopérant à Istanbul. C'est l'affaire de Vendémiaire qu'il a détourné de sa voix. Non, mais Bonaparte, lui, quand même, il peut tout dire et n'importe quoi parce que son but est politique et stratégique. Et tandis que chez Comte, c'est pas du tout la même chose. C'est une vision philosophique, intellectuelle. C'est pas une simple perception.
Oui. Alors revenons à Ismaël Urbain. Maintenant, on est au soir de sa vie. On est en 1884. Il mourra à Alger.
Il meurt en janvier 84.
Donc, ses dernières années sont à Alger.
Oui. Il est allé à Alger en 82. Pour mourir dans la tranquillité et la sérénité pour lui. C'est ce qu'il dit.
Il est inhumé dans le cimetière Saint-Eugène,
oui,
au pied de Notre-Dame d'Afrique.
Oui. Et alors, évidemment, les gens se demandent pourquoi musulman il entre. Son fils était enterré là, et son fils n'était pas le fils de sa deuxième femme a été enterré là, alors que sa première femme, Jaimuna, est à Boukabarin.
Oui.
Et il allait chaque année, régulièrement, faire la prière sur sa tombe, etc., jusqu'au bout. Mais lui, il a voulu être enterré avec son fils. Et puis sa femme, sa deuxième femme, a été enterrée là aussi. Sa tombe est toujours là, à gauche de l'entrée du cimetière.
Du cimetière, oui. Eh bien, cher Roland Lafitte, merci d'être venu nous parler d'Ismaël Urbain. En tout cas, nous avons fait connaissance avec cette personnalité très riche. Et un personnage haut en couleur à tout point de vue du 19e siècle, et puis-je dire que c'est un représentant du saint-simonisme.
Il s'est voulu saint-simonien jusqu'à la fin.
Bien.
Mais c'est un filon du saint-simonisme.
Alors si le secrétaire général de la Société des études saint-simoniennes le dit, c'est que c'est vrai.
Sans doute.
Merci, chers amis auditeurs. C'était Question d'Islam, et vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est Sylvia Favre. La prise de son est assurée aujourd'hui par Guillaume Ledu, et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin.
Shavatori, aman, 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 aman. Was it in Kerem, Erdam, Dene? Was it in Kerem, Erdam, Dene? Aman, 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 aman. Nalivrim, nalivim, was Kerem, Babar, Behema. Aman, 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 aman. Was Kerem, Babar, Behema. turu.